Alors, je vous prie de bien vouloir éteindre vos portables avant que nous commencions. Les annonces de plans de suppression d'emplois ressemblent désormais à un bulletin de guerre quotidien. Sony à Dax, 330 emplois supprimés. Plastic Omnium au Havre, 210 emplois. ArcelorMittal, 1400. Renault, 4000. PSA, 3500. Ford à Blanquefort, 1600. Hewlett-Packard, 580. Adeco, 600. La Redoute, 672. La Camif, 980. Continental Autoradio à Rambouillet, 400. Forestia à Sandouville, 130, etc., etc. Il ne s'agit là que de quelques usines en France appartenant à des grands groupes. Mais il faudrait plusieurs pages pour dresser la liste de toutes les entreprises qui suppriment des emplois dans ce pays, de la petite PME étranglée par l'arrêt brutal du crédit bancaire aux sous-traitants automobiles dont le carnet de commandes s'est brutalement vidé. Il faudrait aussi dresser la liste de toutes les entreprises touchées par le chômage, partiel ou total, avec les diminutions importantes de salaire que cela implique pour les travailleurs. Il s'agit plus seulement de la filière automobile. Des dizaines d'entreprises, de toutes les tailles, de tous les secteurs, ont d'ores et déjà programmé des fermetures de leurs ateliers en 2009, parfois pour des semaines entières. Aux États-Unis, la situation de l'emploi est pire encore. Le 5 décembre, le département du travail américain annonçait qu'un demi-million d'emplois avaient été détruits dans ce pays pour le seul mois de novembre. Pour l'ensemble de l'année 2008, qui n'est pas encore terminée, le total des emplois détruits va dépasser les 2 millions, un chiffre jamais atteint depuis 1945. Il y a un mois, le journal Les Échos, pourtant pas connu pour ses idées socialistes, écrivait dans un supplément spécial consacré à la crise, je le cite, « L'économie mondiale traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Sans qu'une guerre, sans qu'aucune catastrophe soudaine en soit à l'origine, le système financier de la planète vient de frôler le collapsus, la banqueroute générale. Longtemps un peu irréel, la débâcle financière se transforme en crise économique profonde. La liste des pays entrés en récession s'allonge chaque jour. La détresse gagne des franges nouvelles de la population. Les pays du Sud subissent avec violence le ralentissement du Nord. Le monde fait face, à présent, au risque d'une grande dépression, une chute à la fois brutale et massive de l'activité. Ni les dirigeants politiques, ni les économistes, ni les commentateurs ne peuvent plus nier la gravité et la profondeur de la crise économique dans laquelle s'enfonce la planète. Comparer la crise actuelle à la grande dépression des années 30 est aujourd'hui devenue une banalité. Pourquoi le capitalisme ne peut-il pas fonctionner sans crise ? Qu'est-ce que la crise de 1929 nous apprend sur la crise actuelle ? Quelles sont les causes immédiates et les raisons plus profondes de cette crise ? Comment les travailleurs peuvent-ils y faire face ? Eh bien, c'est à ces questions que nous voulons répondre dans cet exposé. Et là-dessus, je passe la parole à Xavier Lachaud.
Depuis la révolution industrielle, toute l'histoire du capitalisme est ponctuée de crises, suivies de récessions plus ou moins longues, avant qu'une lente reprise ne s'amorce, se transformant en un boom économique jusqu'à la crise suivante. Ces cycles économiques jouent, dans la vie du capitalisme, le même rôle que les cycles de circulation du sang dans la vie de l'organisme, pour reprendre une formule de Trotsky. Les crises ne sont ni des anomalies, ni des maladies de l'économie capitaliste. Elles sont en fait le seul et unique moment de régulation de tous les déséquilibres provoqués par ce système de production. Ce qui caractérise le capitalisme, c'est que l'ensemble des moyens de production et de distribution des richesses est contrôlé par des propriétaires privés. L'objectif des capitalistes n'est pas de fournir tous les biens nécessaires à la vie quotidienne de plusieurs milliards d'êtres humains. Ils ne produisent pas de la nourriture, des médicaments ou des automobiles pour satisfaire des besoins mais uniquement parce que cette production est censée leur apporter des profits. Mais c'est dans les ateliers de production que sont créées toutes les richesses de la société, y compris le profit. C'est la force de travail humaine qui est seule capable de créer de la valeur en transformant, par exemple, de l'acier, du plastique ou des câbles électriques en automobile. La force de travail a cette propriété extraordinaire de créer plus de valeur que ce qu'elle ne coûte pour l'entretenir. Si le salaire versé par un capitaliste à ses ouvriers leur permet plus ou moins de faire face à leurs dépenses courantes, il est toujours bien inférieur aux richesses qu'ils créent par leur travail. Cette partie de la valeur créée par les ouvriers et qui n'est pas payée par les capitalistes, c'est ce que Marx a appelé la plus-value. Et c'est la source du profit capitaliste. Au bout du compte, toute la société capitaliste s'organise autour du partage de la plus-value. La plus-value suée par les ouvriers sur les chaînes de fabrication des automobiles va se répartir entre les actionnaires, les concessionnaires, les banquiers, les assureurs et quelques autres intermédiaires. Mais tant que les voitures produites restent sur les parkings de l'usine ou dans le hall du concessionnaire, la plus-value reste virtuelle. Pour que le capitaliste récupère son profit, il doit les vendre. C'est une phase capitale. Pour chaque automobile, chaque écran plasma, chaque bien de consommation mis sur le marché, les capitalistes doivent trouver un client disposant du pouvoir d'achat suffisant pour l'acheter. Ils doivent trouver un marché solvable. Mais le marché solvable est limité. Les clients potentiels des biens de consommation sont les ménages, partout sur la planète. Ceux de la bourgeoisie, petite ou grande, qui consomment beaucoup et pas seulement des jets privés ou des yachts, mais aussi les plus nombreux, ceux des milieux populaires dont le pouvoir d'achat est limité, dont le pouvoir d'achat limité permet tout juste de faire face à leurs besoins quotidiens, même dans les périodes de prospérité économique où le pouvoir d'achat de la classe ouvrière augmente. L'offre, de son côté, dépend de la capacité de production. Cette dernière augmente avec les inventions scientifiques, les innovations techniques. Mais l'offre ne résulte pas d'une décision consciente qui prendrait en compte les besoins à satisfaire ainsi que les moyens pour y faire face. Elle résulte des décisions d'une multitude de capitalistes individuels opposés les uns aux autres par la concurrence. Ces capitalistes se livrent une guerre acharnée. Dans le secteur automobile, on compte une douzaine de grands constructeurs. Si la demande mondiale est estimée à 70 millions de véhicules neufs par an, chacun veut rafler la plus grosse part du marché. Chacun lance des installations pour produire plus de voitures qu'il n'en vendra au bout du compte. Cette concurrence entraîne un gonflement des capacités de production qui dépasse un moment ou un autre la demande solvable. C'est la surproduction. Inexorablement, certains se retrouvent avec des installations surdimensionnées ou des stocks non écoulés. Pour rétablir l'équilibre, les perdants réduiront brutalement leur production. Certains licencieront, partiellement ou totalement, leurs ouvriers, annuleront les contrats passés avec leurs sous-traitants. D'autres feront faillite. La crise est le seul moyen de liquider les stocks, d'équilibrer l'offre toujours plus grande et la demande solvable limitée. L'ajustement se fait après coup, brutalement. La construction d'une voiture exige des matières premières, de l'acier, divers métaux, des câbles électriques, du plastique produit à partir du pétrole, des pneumatiques, une multitude de pièces détachées, sans parler des machines-outils, des lignes d'assemblage et de l'électricité pour les alimenter. Chaque crise, chaque arrêt du processus de production dans l'automobile ou dans une autre industrie des biens de consommation se répercute sur les industries situées en amont qui leur vendent ces biens de production. C'est ainsi qu'ArcelorMittal vient d'annoncer l'arrêt de la moitié de ses hauts fourneaux en Europe pour cause de crise dans le bâtiment et l'automobile. Il en profite pour supprimer plusieurs milliers d'emplois. Comme dans tous les secteurs, la concurrence fait rage entre sidérurgistes ou entre chimistes pour vendre le plus possible d'acier ou de plastique aux industries des biens de consommation. Elle fait rage aussi d'un étage à l'autre de la production, entre les deux ou trois producteurs de minerais, les sidérurgistes et tous leurs clients, constructeurs automobiles ou industriels du bâtiment, pour accaparer chacun la plus grande part des profits. Cette concurrence est encore une source de déséquilibre et de crise. Mais le déséquilibre est d'autant plus grand que les investissements pour construire un haut fourneau ou une installation chimique sont très lourds. Les amortissements se font sur des années et la mise en route de ces installations est longue. Les sidérurgistes français ont, par exemple, après-guerre, retardé au maximum leur investissement dans des hauts fourneaux capables de produire des aciers plats pour l'automobile ou l'électroménager. Quand ils ont fini par le faire, avec l'aide massive de l'État, dans les années 60, leurs nouvelles installations, à Fos ou à Dunkerque, étaient à peine opérationnelles que les besoins en acier avaient chuté, condamnant de nombreux hauts fourneaux à la fermeture définitive. Ce fut l'une des causes de la crise de la sidérurgie des années 70-80, qui provoqua des dizaines de milliers de licenciements et qui vit une nouvelle fois l'État français voler au secours des Devandel ou autres Schneider en nationalisant leurs usines obsolètes ou surdimensionnées. La crise permet ainsi de rétablir l'équilibre entre les différentes branches industrielles, de rééquilibrer les deux secteurs fondamentaux de l'économie, les industries qui produisent pour le marché des biens de consommation et celles qui produisent des machines ou des matières premières, tous les moyens de production. C'est encore à travers les crises que l'économie capitaliste élimine les entreprises qui sont en trop par rapport au marché solvable. Même dans une économie rationnellement organisée, il serait nécessaire d'adapter régulièrement les efforts collectifs, le temps de travail consacré à produire n'importe quelle marchandise. C'est une constante de l'économie humaine. Au fur et à mesure des innovations techniques et des améliorations dans la façon de produire collectivement les richesses, le temps de travail moyen nécessaire pour produire la nourriture, les vêtements, mais aussi des ordinateurs ou des voitures, a tendance à baisser. Mais dans l'économie capitaliste, cet ajustement périodique se fait par la disparition brutale des entreprises dont le temps et les coûts de production sont supérieurs à la moyenne. C'est encore la crise qui permet de rétablir le taux moyen de profit de l'économie capitaliste. Pour augmenter sa part de profit, chaque capitaliste produit toujours plus de marchandises. Si une nouvelle machine ou un nouveau procédé lui permet de produire deux fois plus vite pour deux fois moins cher, il investit dans cette machine. Cela lui permet d'accroître sa part de marché et d'éliminer une partie de ses concurrents. Mais ce qui est bon pour un capitaliste individuel ne l'est pas pour la classe capitaliste dans son ensemble. Les concurrents finissent tôt ou tard par investir eux aussi dans cette machine ou une autre encore meilleure. Au bout du compte, il y a un gonflement du capital investi dans les machines. Comme c'est le travail humain qui produit le profit, pas les machines, ce gonflement sans fin du capital provoque une diminution régulière du taux de profit pour l'ensemble de l'économie capitaliste. Chaque capitaliste tente bien sûr de résister à cette diminution en aggravant l'exploitation des travailleurs par tous les bouts, allongement du temps de travail, intensification des cadences, réduction des salaires comme des effectifs. Mais l'exploitation finit par se heurter à des limites biologiques et le taux de profit moyen diminue. En éliminant les entreprises les moins rentables, en fermant les ateliers les moins productifs, les crises détruisent du capital. Cette destruction de capital fait remonter le taux de profit dans l'économie capitaliste. Pour les capitalistes les plus faibles, la crise signifie la disparition. Pour les autres, c'est une opportunité de racheter à bas prix les concurrents. Les plus gros capitalistes grossissent encore un peu. À chaque crise, le capital se concentre davantage. Pour l'économie capitaliste, les crises sont donc des moments absolument indispensables pour purger le système de tous les déséquilibres qu'il engendre à toutes les étapes de la production et de la distribution des marchandises. Pour les travailleurs, chaque crise est une catastrophe, car elle se traduit par des licenciements massifs et du chômage, par l'appauvrissement d'une fraction supplémentaire des classes populaires. Elle est nuisible aussi pour la société, car elle se traduit par la destruction et le gaspillage de biens utiles qui manquent cruellement à toute une autre fraction de l'humanité. Mais pour l'économie capitaliste, ce ne sont que des faux frais. La crise actuelle a mis en évidence le poids démesuré de la finance dans l'économie capitaliste. Mais contrairement aux apparences, la finance n'est pas seulement un cancer qui paralyse l'économie. Elle est aussi le sang qui irrigue son marché. L'économie capitaliste ne pourrait pas fonctionner sans les banques. D'abord, les banques permettent la continuité de la production en fournissant les liquidités, les avances sur trésorerie dont les entreprises ont besoin en permanence. C'est vrai pour les petits fournisseurs ou les sous-traitants qui sont payés par les donneurs d'ordre, avec souvent des délais de 3 mois, qui doivent payer leur traite immédiatement. Mais c'est vrai aussi pour les grosses entreprises. Si Renault devait attendre d'avoir vendu ses voitures pour acheter de la matière première, payer ses factures d'électricité ou verser les salaires de ses ouvriers, la production risquerait d'être sans cesse interrompue. Un arrêt brutal des prêts financiers suite à une perte de confiance dans le système bancaire ou une augmentation des taux d'intérêt provoque la faillite de milliers d'entreprises en les empêchant d'accéder aux crédits dont elles dépendent. Même un géant de l'automobile comme General Motors, dont les ventes se sont effondrées ces dernières semaines et à qui les banques refusent de prêter des capitaux, voit fondre inexorablement ses réserves dans le fonctionnement quotidien de ses usines. Les banques jouent encore un rôle quand les capitalistes décident de réinvestir leurs profits. Les investissements pour construire une nouvelle usine nécessitent de gros capitaux. En attendant de les accumuler, les capitalistes les placent dans les banques pour les faire fructifier. Ils placent les sommes récoltées au fur et à mesure de leur vente. Les banques centralisent ainsi des masses de capitaux. Elles les mutualisent en quelque sorte pour les mettre à disposition de tel ou tel capitaliste au moment où il en a besoin. Elles lui permettent ainsi d'investir en anticipant sur ses profits à venir. Il ne s'agit plus là d'un simple crédit commercial, d'un prêt à court terme pour faire tourner l'entreprise, mais d'un prêt à long terme, d'un crédit d'investissement. Au cours du développement du capitalisme, les banques ont drainé vers l'industrie des capitaux de plus en plus petits et épars, provenant des petits patrons ou de divers rentiers. Les succursales bancaires de plus en plus décentralisées, les caisses d'épargne, les bureaux de poste, ont drainé l'épargne populaire, puis une fraction des salaires ouvriers déposés sur leurs comptes bancaires. Elles ont ainsi transformé des sommes éparses inutilisables en un capital mis à la disposition des gros capitalistes qui, crise après crise, avaient pris le contrôle des grands secteurs de la production. Évidemment, les banques ne font pas ce travail d'intermédiaire pour les beaux yeux des industriels. En échange des sommes avancées, elles perçoivent un intérêt. À travers cet intérêt, elles prélèvent leur part de plus-value créée par les ouvriers. Et elles ne se contentent pas de la portion congrue. Les banques, au cours du temps, ne sont pas restées longtemps de modestes intermédiaires. Placées au cœur même des affaires des entreprises, au niveau du portefeuille, elles en ont pris le contrôle en n'investissant que dans les plus rentables. Parallèlement aux banques, les capitalistes trouvent leur ration de capital frais à travers la bourse des valeurs. Ils ont créé, très tôt dans leur histoire, des sociétés industrielles par action. Chaque action représente une fraction du capital. Les actionnaires ne touchent pas un intérêt fixe comme les banquiers, mais un dividende. Ces dividendes, variables d'une année à l'autre, représentent une partie des profits annuels de l'entreprise. Les entreprises peuvent encore obtenir des capitaux en émettant sur les marchés financiers des obligations qui rapportent à leur porteur un intérêt annuel fixe, mais qui ne donnent aucun droit sur la marge de l'entreprise. La généralisation des sociétés par action a permis de dissocier complètement la vie des entreprises de celle, celle des capitaux qui leur permettent de fonctionner. Elle a surtout accéléré la concentration en mettant sous la tutelle de gros investisseurs des milliers de petits porteurs sans aucune prise sur la marge de l'entreprise. Cela a permis la création des monopoles et des cartels dans les grands secteurs économiques. Finalement, il y a belle lurette que la frontière entre les industriels et les banquiers a disparu, qu'il n'y a pas les bons entrepreneurs industriels d'un côté et les mauvais financiers de l'autre. Les directeurs des grandes banques sont dans les conseils d'administration des grandes firmes industrielles et vice-versa. Le premier président de la Société Générale était par exemple Eugène Schneider, le patron des forges du Creusot. Le principal banquier de l'Amérique, J.P. Morgan, qui disposait en 1900 de plus d'or que le trésor américain, contrôlait la moitié du réseau ferré américain avant de racheter la principale compagnie d'acier du pays. Le poids des financiers dans l'industrie et la concentration du capital ont augmenté régulièrement lors de chaque crise. Avec la concentration, l'extension du capitalisme à tous les pays, à tous les secteurs économiques, puis le développement du crédit, plus tard les interventions directes des États, les crises sectorielles se sont transformées en crises générales, plus profondes au moment où elles éclataient. Mais sectorielles ou générales, elles reviennent immuablement avec une fréquence plus ou moins régulière. En 1921, Trotsky constatait, je cite, « Pendant les périodes de développement rapide du capitalisme, les crises sont courtes et ont un caractère superficiel. Pendant les périodes de décadence, les crises durent longtemps et les relèvements sont momentanés, superficiels et basés sur la spéculation. » Alors, nous n'allons pas, je vous rassure, faire le tour de toutes les crises qui ont secoué l'économie capitaliste depuis sa naissance. Nous n'en évoquerons que deux. La Grande Dépression des années 30, provoquée par le krach boursier de New York en octobre 1929, et la crise actuelle qui s'est brutalement aggravée le 15 septembre dernier. Si la crise actuelle ne fait que démarrer, si nul ne peut en prévoir les développements, tous les commentateurs la comparent à celle de 1929. Même si la situation internationale n'est pas du tout la même, et même si l'histoire ne se répète jamais de la même façon, il est instructif d'étudier les enchaînements qui ont conduit à la crise actuelle, à la lumière de celle de 1929. S'il existait une échelle de Richter des crises économiques, comme pour les tremblements de terre, celle de 1929 serait tout en haut. Elle a traumatisé la bourgeoisie pour plusieurs générations. Le système financier de toute la planète a été ébranlé pour des décennies. Si les banquiers n'ont pas autant sauté par les fenêtres qu'on le dit, des centaines de banques firent faillite. La bourse de Wall Street n'a retrouvé son volume d'affaires que dans les années 1950. Le krach boursier d'octobre 1929 a ouvert la dépression économique la plus profonde de l'histoire du capitalisme. Alors qu'est-ce qui provoqua la crise de 1929 et qu'a-t-elle de commun avec la crise actuelle? Il y eut, avant le krach d'octobre 1929, la même phase d'euphorie boursière et financière que ces dernières années. À partir de 1921-22, l'économie américaine connut une spectaculaire croissance. Pour les économistes de l'époque, l'Amérique était entrée dans la nouvelle économie. Le directeur de la bourse de Wall Street pérorait. C'en est apparemment fini des crises économiques cycliques telles que nous les avons connues. Cette croissance économique était portée par des investissements relativement massifs. La construction automobile était l'une des locomotives de cette nouvelle économie. En 1929, un Américain sur cinq possédait une voiture. Cette année-là, 5 millions d'unités sortirent des chaînes de montage de Ford ou de la General Motors. Les profits des constructeurs automobiles s'envolaient en même temps que le cours de leurs actions à la bourse. General Motors pouvait ainsi racheter Vauxhall au Royaume-Uni et Opel en Allemagne. Les constructeurs automobiles avaient besoin d'acier, de pneumatiques ou de pétrole fournis par la US Steel de Carnegie ou Morgan ou par la Standard Oil de Rockefeller. La construction immobilière explosait. Le bâtiment et l'automobile tiraient la sidérurgie. Les États-Unis possédaient alors la moitié de l'acier, extrayaient les deux tiers du pétrole de la planète. Les profits suivaient. Ce fut, comme dans les années 2000, une époque d'intense fusion-acquisition. La concentration était déjà réalisée dans l'industrie lourde, mais pas dans les nouveaux secteurs comme l'automobile. Henry Ford avait inventé le système des $5 day, $5 par jour de travail, et prétendait ainsi offrir à ses ouvriers un pouvoir d'achat suffisant pour qu'ils achètent leur propre voiture, le fameux modèle T. En fait, il fallait une longue ancienneté chez Ford pour toucher effectivement ce salaire. Et pour les ouvriers, l'achat d'une automobile neuve n'était possible qu'à crédit. Le crédit fut précisément l'autre moteur de l'expansion économique des années 20. Quand la crise a éclaté, il y avait plus de 1,4 milliard de dollars de créances sur des automobiles aux États-Unis. Les banques avaient inventé le crédit à la consommation, proposé à des fractions de plus en plus pauvres de la population. C'était devenu un instrument magique pour élargir artificiellement le marché solvable. C'est le crédit encore qui favorisait la vente d'appareils ménagers. la radio était au centre de cette nouvelle économie. Le principal fabricant de postes récepteurs, RCA, déchaînait un engouement boursier semblable à celui que connut Amazon.com ou Yahoo entre 1999 et 2001. Le cours de son action fut ainsi multiplié par 7 durant la seule année 1929. En 1927, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, qu'on appelle couramment la Fed, baissa ses taux d'intérêt. Les banques, qui pouvaient ainsi emprunter à très bon marché auprès de la Fed, accordèrent encore plus facilement des prêts. Ce fut le début d'une spéculation effrénée sur le cours des actions. Les acheteurs n'attendaient plus simplement le dividende versé en fin d'année. Ils achetaient des actions pour les revendre un peu plus cher. Le cours des actions boursières s'envola et fut bientôt complètement déconnecté de la valeur réelle des entreprises. Après les banquiers et les rentiers, ce furent les entreprises industrielles qui spéculèrent avec toute leur trésorerie, des salaires au fonds de roulement. En septembre 1929, les capitaux engagés dans la spéculation qui provenaient de l'industrie dépassaient ceux d'origine bancaire. Des capitaux affluaient de toute l'Europe. Ceux qui ne disposaient pas de capitaux empruntaient. Les courtiers de Wall Street proposaient des emprunts au jour le jour, indexés sur la valeur des actions. Les financiers créèrent des sociétés d'investissement par action, puis des filiales de ces sociétés qu'ils introduisaient à la bourse. En 1929, il se créait une société par jour. De grandes banques institutionnelles, comme Morgan ou Goldman Sachs, créèrent leurs propres sociétés d'investissement. Le génie financier de l'époque avait inventé ses produits dérivés. La bulle ne pouvait que crever. Tous les spéculateurs le savaient, mais aucun ne voulait être le premier à revendre, aucun ne voulait risquer de perdre le moindre dollar tant que la hausse se poursuivait. Pour les rassurer sans doute, un économiste de l'époque déclarait au printemps 1929, je cite, « Le prix des actions a atteint ce qui paraît un haut plateau permanent ». Mais le plateau s'effondra. Le krach survint en octobre. Une mécanique fatale s'est alors enclenchée. Les sociétés d'investissement, profondément endettées auprès des banques, vendirent des actions en masse pour récupérer des liquidités. La plupart d'entre elles firent faillite, fragilisant les banques qui s'écroulèrent à leur tour. Elles gelèrent leurs crédits aux entreprises, puis rapatrièrent le maximum de fonds depuis l'Europe et spécialement depuis l'Allemagne. La crise d'abord boursière devint bancaire, puis toucha la production. En réalité, le krach boursier n'avait été que le révélateur d'une crise bien plus profonde. La récession économique était en fait déjà amorcée depuis le milieu de l'année 1929. L'économie mondiale, à la fin des années 20, était marquée par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Malgré leur victoire sur l'Allemagne, la France et l'Angleterre en étaient sorties considérablement affaiblies. Une grande partie de leur appareil de production était détruit ou usé jusqu'à la corde, faute d'avoir été renouvelé. Le paysan ne trouvait plus d'engrais chimiques ou de machines agricoles. Le propriétaire de mines ne renouvelait plus son outillage. Les monnaies européennes étaient dévaluées, car les gouvernements avaient fait marcher la planche à billets. Pour restaurer à marche forcée la convertibilité de leur monnaie avec l'or, les gouvernements britanniques et français avaient réduit les importations et cherchaient à exporter le plus possible en baissant tous les prix. Bien avant la crise, cette politique poussa les puissances européennes à se replier sur leur empire colonial dont elles intensifièrent l'exploitation. L'appareil productif américain, alors en pleine expansion, ne pouvait pas compter sur le marché européen pour écouler sa production. Même si son marché intérieur était vaste, avec des régions entières encore à industrialiser, il n'était pas infini. Le recours massif au crédit n'avait fait qu'en repousser artificiellement les limites. Les inventions financières qui avaient conduit au krach étaient finalement une façon de placer des capitaux qui ne trouvaient pas à s'investir dans la production. C'est un point commun avec la période actuelle. Le développement de la finance et de la spéculation était une fois de plus provoqué par les limites du marché solvable. Toute une fraction de la bourgeoisie américaine en était parfaitement consciente. Certains pensaient même que cette crise était salutaire pour purger le système, liquider les canards boiteux et remonter ses taux de profit. Andrew Mellon, secrétaire au Trésor de 1921 à 1932, banquier et milliardaire, l'exprima sans fard. Il déclara cyniquement, au moment où des millions de travailleurs américains étaient jetés au chômage, dans des bidonvilles ou sur les routes, je le cite, « Liquidons les emplois, liquidons les stocks, liquidons les agriculteurs, liquidons l'immobilier !» en ajoutant « Le coût de la vie et le niveau de vie trop élevé baisseront, les gens travailleront plus dur et mèneront une vie plus morale. » Mais Mellon et ses semblables furent servis au-delà de leurs souhaits. Contrairement aux crises précédentes, celle-ci fut une dépression profonde qui dura. Pendant 4 ans, la production industrielle américaine chuta à la moitié de sa valeur d'avant le crack. En 1933, il y avait 15 millions de chômeurs aux États-Unis, un travailleur sur 5. Les grandes entreprises automobiles licencièrent les 2/3 de leurs ouvriers. Dans le textile ou la sidérurgie, plus de la moitié des usines étaient à l'arrêt. Ceux qui conservaient leur emploi chômaient plusieurs jours par semaine. Le prix de toutes les denrées se sont effondrés. C'était la déflation. Howard Zinn raconte dans son Histoire populaire des États-Unis, je cite, qu'il y avait des millions de tonnes de nourriture disponibles, mais qu'on ne pouvait profiter ni de leur transport ni de leur vente. De nombreux logements étaient disponibles, mais restaient vacants, personne ne pouvant en payer les loyers. Les gens avaient été expulsés de chez eux et vivaient désormais dans des taudis, les fameux Hooverville, qui s'étaient rapidement construits dans les décharges. Alors que des milliers de personnes mouraient de faim aux États-Unis, on détruisait des milliers de tonnes de blé et de fruits, on abattait des centaines de milliers de têtes de bétail pour faire remonter le cours de ces denrées agricoles. Steinbeck raconte dans Les raisins de la colère comment des millions de petits agriculteurs, endettés pour moderniser leur exploitation, furent chassés de leurs terres par les banques qui récupéraient leurs hypothèques. La crise joua son rôle habituel, en éliminant les entreprises les plus faibles et les moins rentables. Les grands trusts de l'acier, du pétrole, de la chimie renforcèrent leur hégémonie, déjà très forte, tout en voyant leurs affaires ralentir considérablement. Dans l'automobile, la concentration augmenta. Les deux grands, General Motors et Ford, absorbèrent leur ration de concurrents indépendants. Les banques furent les plus touchées. Près d'un millier firent faillite. Les directeurs des plus grosses furent sermonnés et convoqués devant le Sénat. Ils furent parfois renvoyés, mais avec des rémunérations à vie confortables, même si elles ne s'appelaient pas encore parachute dorée. Après les États-Unis, la crise s'est étendue à l'Allemagne, dont l'économie fut anémiée par le retrait brutal des capitaux américains, rapatriés en urgence vers Wall Street. Avec 2 ans de retard, le reste de l'Europe fut touché. On vit apparaître en France, et plus encore en Grande-Bretagne, des files de chômeurs sans ressources et des scènes de misère populaire. Tous les pays furent touchés. Au Brésil, on brûlait le café dans les locomotives en espérant faire remonter les cours effondrés. Le protectionnisme, déjà très fort avant la crise, fut considérablement renforcé de part et d'autre de l'Atlantique. Le commerce mondial s'est littéralement effondré. Chaque bourgeoisie s'est repliée sur son marché intérieur ou sur ses colonies. Aux États-Unis, une loi instaura en 1930 des tarifs douaniers prohibitifs. C'est au cours de ces années de dépression économique que Franklin Roosevelt fut élu président des États-Unis en remplacement de Hoover. Roosevelt est resté dans l'histoire pour avoir mis sur pied, dès son entrée en fonction au printemps 1933, un programme d'intervention économique, le New Deal, ou la Nouvelle Donne. Le New Deal est présenté comme un plan de relance économique, et surtout comme une politique d'intervention de l'État destinée à redonner du travail aux millions de chômeurs. Mais le problème du gouvernement Roosevelt n'était pas de réduire le chômage ni la misère noire pour les travailleurs. Sa politique était d'abord destinée à relancer les affaires de la bourgeoisie américaine, à lui offrir de nouveaux marchés. Le New Deal fut concrètement une série de lois prises par le Congrès dans les 100 premiers jours de la présidence. Roosevelt restaura le système bancaire en garantissant les prêts par l'État et en réorganisant sous son contrôle les banques en quasi-faillite. Il racheta leurs créances douteuses, une mesure qui allait resservir. Roosevelt fit voter une loi pour subventionner les agriculteurs afin qu'ils réduisent leur production et que les prix remontent. Cette loi renforça les plus gros fermiers. Dans l'industrie, une nouvelle loi limitait la concurrence et fixait des minima pour les salaires et pour les prix. Les plus grandes entreprises se partagèrent les secteurs et les marchés. L'État se mêlait certes des affaires industrielles, ce qui était nouveau aux États-Unis, mais c'était sous l'égide de l'Association nationale des industriels. Le New Deal est connu par sa politique des grands travaux. La construction de dizaines de barrages, de tunnels, de dizaines de milliers de ponts et de kilomètres d'autoroutes, l'électrification de régions entières, fut certes un progrès. Mais là encore, le but principal ne fut pas de redonner du travail aux chômeurs. Ce fut d'offrir des marchés aux industriels du bâtiment et des travaux publics. Les salaires étaient maintenus au minimum et les conditions de travail telles qu'on pouvait parler des groupes de forçats fédéraux. Roosevelt déclara lui-même en 1936, je cite, « C'est mon administration qui a sauvé le système du profit privé et de la libre entreprise. » Il faut dire que la bourgeoisie américaine fut confrontée à une véritable explosion sociale à partir de 1934. Cette année-là, plus d'un million et demi de travailleurs de différents secteurs se mirent en grève. Les grèves qui s'intensifièrent en 1935 et 1936 prirent souvent un caractère politique avec occupation des usines. Elles débordèrent les vieilles bureaucraties syndicales. Pour faire face à cette vague de grève, Roosevelt favorisa la création de droits minimums à l'assurance retraite et à l'assurance chômage. Une autre loi permettait à un syndicat de faire appel à l'État pour obtenir sa reconnaissance par le patron, à condition toutefois de s'être conformé à une procédure très restrictive. Finalement, Roosevelt réussit à canaliser la révolte des travailleurs par un mélange de répression et de connivence avec les directions syndicales. Mais en 1937, une nouvelle récession éclatait. Finalement, c'est la production militaire massive en vue de la guerre qui relança vraiment l'économie capitaliste. Si les dépenses militaires sont, à toutes les époques, un marché pour les capitalistes, la construction de navires, de chars et d'armes lourdes s'emballa dans tous les pays développés. Cette politique interventionniste de l'État fut menée dans tous les pays de la planète. L'État qui a mené la politique la plus interventionniste et la plus dirigiste entre 1930 et 1945 fut l'Allemagne. Cela démarra dès 1930 sous le gouvernement Brüning, qui diminua par décret les salaires et les prix, et réduisit les indemnités chômage. Mais cela s'intensifia avec l'arrivée au pouvoir de Hitler et du nazisme. Grâce à la dictature féroce contre les travailleurs, à l'élimination des organisations ouvrières, à la militarisation des ouvriers à l'intérieur même des usines, le régime hitlérien a lancé une politique de grands travaux et de relance économique. En s'appuyant sur les cartels industriels allemands et les grandes banques du pays, et pour le plus grand bénéfice de leurs actionnaires, Hitler a imposé la régulation de l'économie, la centralisation de l'industrie et des approvisionnements en matières premières. Ce fut le dirigisme et le protectionnisme poussés à l'extrême dans une société capitaliste pour permettre à l'impérialisme allemand de reconquérir sa place. Au-delà de l'Allemagne, la militarisation de l'économie fut le lot de tous les pays engagés dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce fut finalement le seul véritable remède à la crise. Si les profits revenaient à la bourgeoisie, le choix des productions, comme leur destination, était imposé par les gouvernements. General Motors s'enrichit en fabriquant des tanks et le cimentier français Lafarge en construisant le mur de l'Atlantique au profit de l'armée allemande. L'humanité paya au prix fort la crise du capitalisme des années 30. D'abord par les souffrances endurées durant la Grande Dépression. Ensuite par les dizaines de millions de morts, les destructions massives et les nouvelles souffrances provoquées par la Deuxième Guerre mondiale. Il est à la mode, dans les milieux bourgeois, mais aussi dans les milieux altermondialistes, d'opposer la période d'après-guerre, qui serait une époque d'intervention systématique des États dans l'économie, à la période démarrée dans les années 1970, où la règle aurait été le laisser-faire. La crise actuelle déclenche des débats sur les responsabilités de telles ou telles écoles d'économistes. Il y aurait d'un côté les partisans de l'intervention des États, avec le britannique Keynes comme modèle. Il y aurait de l'autre côté les intégristes du marché, partisans de la dérégulation à tout prix, dont Milton Friedman était le pape. Cela aurait pris le pouvoir à l'époque de Reagan et Thatcher, et serait responsable de la déconfiture actuelle. Cette discussion est oiseuse. Les grands États impérialistes n'ont jamais cessé un seul instant d'intervenir dans la marche de l'économie. La béquille de l'État devint une caractéristique permanente de l'économie capitaliste après la Grande Dépression des années 30. Ce qui changea au tournant des années 1980, ce fut la forme de cette intervention. Et si la forme changea, c'est qu'après une phase globale d'expansion économique, éclata une nouvelle crise. Si les années d'après-guerre virent un accroissement considérable de la production, le redémarrage fut lent. Et il ne se fit justement qu'avec l'intervention massive des États. Il a fallu reconstruire des économies dévastées. Il n'y avait plus ni surproduction ni abondance de capitaux. C'était la pénurie qui régnait. Dans la plupart des pays impérialistes, sauf les États-Unis, des industries entières et les grandes banques furent nationalisées. C'était une nécessité pour les capitalistes. Les industries de l'acier, du charbon, de l'électricité ou le transport ferroviaire étaient exsangues. Les taux de profit dans ces secteurs étaient bien trop faibles pour que des capitaux privés veuillent bien s'y investir. L'État finança lui-même leur reconstruction, passa des commandes aux industriels. Il y eut même un ministère du plan sous De Gaulle, pourtant pas réputé pour son socialisme. Mais ce sont les Wendel, Alstom, Schlumberger, Bouygues ou Feu Thomson qui se sont enrichis avec les commandes d'État, les programmes de construction des centrales nucléaires, des trains, des autoroutes et des réseaux téléphoniques. S'il y eut après-guerre un contrôle strict de la circulation des marchandises et des capitaux, c'est qu'on manquait de tout. Toutes les marchandises devaient être importées depuis les États-Unis, en même temps que les dollars pour les payer. Ce n'est qu'au fur et à mesure du redémarrage de l'économie que les échanges se sont libéralisés, au cours de longues négociations entre capitalistes rivaux. Pour relancer les échanges internationaux et les stabiliser, les États-Unis, seul pays dont la monnaie ne s'était pas effondrée, imposèrent en 1944 les fameux accords de Bretton Woods. Ces accords consacraient le dollar comme monnaie exclusive des échanges commerciaux, la seule monnaie théoriquement convertible en or, du moins pour les banques centrales. Les autres monnaies étaient indexées sur le dollar et les variations de leur cours sujettes à des accords entre les pays. Cela permettait de garantir les emprunts que devaient faire les pays ravagés par la guerre auprès des États-Unis. Les accords de Bretton Woods affirmaient surtout la suprématie de l'économie américaine, qui servait de garantie en dernier ressort au dollar. Ils furent établis dans une période où il y avait pénurie de monnaie et de capitaux. Les règles fixées par ces accords furent plus ou moins respectées pendant 25 ans, malgré l'inflation et au prix de dévaluation périodique des monnaies les plus faibles. Ces accords durèrent jusqu'à la crise suivante. Même si les économistes appellent la période 1945-1970 les Trente Glorieuses, elle connut plusieurs crises courtes et superficielles dans une période d'expansion globale. Ni la faim, ni la misère, ni les guerres dans le monde n'avaient disparu, pas plus que les inégalités sociales et l'exploitation dans les métropoles impérialistes. Le niveau de vie des classes populaires des pays occidentaux avait un peu augmenté. C'était d'abord l'effet du plein emploi qui permettait aux travailleurs d'obtenir des salaires un peu meilleurs. C'était ensuite l'effet de la diminution massive du prix des équipements électroménagers ou des automobiles, rendant ces marchandises accessibles aux milieux ouvriers. Cette expansion permettait une nouvelle fois aux économistes d'annoncer triomphalement la fin des crises du capitalisme. Mais dès le début des années 70, inéluctablement, pourrait-on dire, une nouvelle crise de l'économie capitaliste était de retour. Le premier symptôme de la crise fut monétaire, tout un symbole pour la suite. En 1971, le gouvernement Nixon dévalua le dollar et supprima définitivement sa convertibilité avec l'or. Il faut dire qu'il y avait bien plus de dollars en circulation partout dans le monde que d'or dans les réserves de la Fed. Pour financer les dépenses d'armement, en particulier celles de la guerre du Vietnam, la conquête spatiale, les nombreuses commandes d'État à l'industrie, les gouvernements américains avaient émis des dollars sans retenue, provoquant l'inflation. Le dollar étant la monnaie internationale, cette inflation s'était répandue sur toute la planète. Des masses de dollars avaient été accumulées par les banques européennes au cours des diverses transactions internationales. Grâce à ces réserves, Les banques européennes émirent des crédits en dollars. Ce furent les eurodollars, émis sans contrôle ni de la Fed ni des banques centrales européennes. Cette création débridée de dollars faisait baisser inexorablement sa valeur. La dévaluation du dollar marquait la fin du système de Bretton Woods. Cela allait permettre, dans les années suivantes, la fluctuation de toutes les monnaies les unes par rapport aux autres, au gré de l'offre et de la demande de chacune d'entre elles. La deuxième manifestation de la crise fut le choc pétrolier de 1973 et sa réplique en 1979. On trouve encore aujourd'hui des commentateurs pour expliquer que la crise a été provoquée par une augmentation brutale du prix du pétrole décidée par les pays producteurs. C'est une légende qui servit à justifier la flambée des prix de l'énergie auprès des populations. Dans la réalité, il y eut entre 1970 et 1973 une série d'accords négociés entre les pays producteurs et les grandes compagnies pétrolières pour relever le prix du baril. Les grandes compagnies pétrolières avaient pris conscience que des investissements lourds sur de nouveaux gisements aux accès plus coûteux étaient nécessaires pour continuer à fournir la planète en pétrole. Du coup, leur taux de profit allait inexorablement baisser. En faisant remonter brutalement les prix, les compagnies allaient maintenir, voire accroître leurs bénéfices, tout en réduisant la production. Elles évitaient ainsi les investissements nécessaires. C'était une anticipation brutale et cynique de la crise. Si la hausse du prix du pétrole n'était pas la cause de la crise, elle en devenait un facteur aggravant. Pour sauver leurs profits, les pétroliers en situation de monopole prenaient sur les profits de leurs compères des autres secteurs économiques. Cette décision allait accélérer, partout dans le monde, une véritable récession, avec toutes les conséquences dramatiques tant pour les peuples des pays sous-développés que pour les classes populaires des pays développés. C'est en 1975 que la production industrielle recula pour la première fois dans tous les pays. Cette nouvelle crise de surproduction ne prit pas, à ce moment-là, la forme d'un effondrement brutal. Mais la diminution du produit national brut des États-Unis en 1975 représentait tout de même le PNB total d'un pays comme la Turquie. Si la production industrielle repartit, c'est avec une croissance 2,5 fois plus faible qu'avant. Elle recula de nouveau brutalement en 1981, puis en 1991 et encore en 2001. Jusqu'à la dégradation actuelle, la crise a pris la forme d'une longue stagnation au cours de laquelle des secteurs industriels entiers ont subi des restructurations massives, le textile, la sidérurgie, la construction navale, mais aussi l'automobile ou la chimie. Pour les travailleurs, la conséquence principale de cette longue crise a été le chômage de masse, qui n'a cessé de s'aggraver malgré les phases de reprise partielle. Dans les meilleures années, une fraction des chômeurs se transforme par intermittence en travailleurs précaires. Durant ces années, les classes populaires ont été considérablement appauvries. Leur part de la richesse nationale a été réduite par de multiples moyens. Le chômage et les licenciements qui diminuent la masse salariale, le blocage des salaires et leur diminution absolue à chaque fois qu'un travailleur ne retrouve qu'un emploi moins payé, l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat, la très forte dégradation des services publics et celle de la santé, de l'éducation et des retraites. Du point de vue de l'économie capitaliste, toute cette période est marquée par deux phénomènes qui s'alimentent l'un l'autre. La très grande faiblesse des investissements productifs et l'accumulation de masses de capitaux disponibles qui cherchent le meilleur moyen de faire des petits. Même quand, par l'aggravation de l'exploitation, les capitalistes ont fini par rétablir leur taux de profit, ils ont limité leurs investissements productifs au strict nécessaire. Du coup, ils ont cherché un nouveau débouché pour leurs milliards. Ce débouché fut la finance, qui prit progressivement un poids jamais atteint dans toute l'histoire du capitalisme. Pour en donner une idée, en 2005, le commerce et l'industrie ne représentaient plus que 2% du total des échanges mondiaux, quand la finance en représentait 98%. La spéculation fait partie du capitalisme. Quand les dirigeants d'un groupe industriel décident d'investir leurs capitaux dans tel ou tel secteur, c'est en soi une spéculation sur la part de marché solvable qu'ils peuvent gagner. Quand ce groupe vend ses marchandises en dollars, en yens ou en euros, Son directeur financier doit sans cesse décider quelle monnaie lui fournira le meilleur placement, quel titre aura le meilleur rendement, sur quelle place boursière, dans 6 mois ou dans 1 an. Au gré des fluctuations du cours des monnaies et des titres boursiers, il doit en changer en permanence. C'est donc tout naturellement que la part financière de leurs activités a grossi quand les grands groupes industriels ont décidé de réduire leurs investissements productifs. Cela a pris différentes formes successives, de façon empirique, au gré des crises financières, des krachs boursiers provoqués justement par cet afflux de capitaux. Sur l'ensemble de ces 30 ans, cela a pris la forme de bulles spéculatives qui se sont nourries l'une l'autre. Chaque remède administré pour surmonter la crise financière ou la récession en cours s'est avéré à l'origine de la crise ou du krach suivant. Les financiers commencèrent par prêter massivement aux États du tiers-monde et de l'Europe de l'Est. Ces prêts profitaient aux groupes occidentaux qui leur vendaient en échange armes ou constructions de prestige. Incapables de rembourser leurs dettes, même en pressurant la population, ces États firent de nouveaux emprunts pour payer les intérêts. Mais en 1982, plusieurs d'entre eux, comme l'Argentine ou le Mexique, se retrouvèrent au bord de la faillite. Pour éviter ces faillites, qui menaçaient en cascade toutes les banques prêteuses, le Fonds monétaire international a rééchelonné la dette, sans pour autant l'annuler, tout en imposant des sacrifices à la population. Mais les capitalistes ont dû chercher un nouveau débouché pour leurs capitaux. Ce fut le début de la spéculation sur les actions. Les bourses devinrent des centres névralgiques de la finance. De nouvelles sociétés financières apparurent pour gérer des portefeuilles d'actions. Ce n'était pas tant le dividende, cette fraction du bénéfice de l'entreprise, qui intéressait ses investisseurs, que la revente de l'action elle-même avec bénéfice. Mais pour que le cours des actions monte, l'entreprise doit faire des bénéfices. Ses coûts de production doivent être réduits et la productivité augmentée. L'évolution de l'indice Dow Jones, qui mesure la capitalisation boursière des principales entreprises américaines, donne une bonne idée de cette flambée. Cet indice était resté sous la barre des 1000 points pendant les 80 premières années du siècle, même pendant l'euphorie précédant le krach de 1929. Entre 1982 et 1987, cet indice passa de 1000 à 2500 points. En 1987, cette spéculation boursière provoqua un violent krach à la bourse de New York. La panique s'étendit à toutes les bourses de la planète qui dégringolèrent pendant quelques semaines. C'est l'intervention massive de la Banque centrale américaine, la Fed, qui sauva le système financier. La confiance restaurée, le cours du Dow Jones reprit son ascension. Il atteignait 14 000 points en 2007. Les années 80 furent l'ère des Golden Boys, comme un certain Michael Milken, qui développa le marché des obligations pourries. Il s'agissait d'obligations émises par des entreprises peu solides et que des banques achetaient moyennant un taux d'intérêt très élevé. Milken fit des émules. Les caisses d'épargne américaines, après avoir fait de nombreux prêts hasardeux dans l'immobilier, se sont refinancées avec des obligations pourries, jusqu'à leur faillite en 1990. La Fed versa 150 milliards de dollars pour sauver les caisses d'épargne. Milken, lui, fut envoyé en prison pour fraude et délit d'initié. Ces faillites, pas longtemps, ces faillites puis la restriction drastique du crédit qui suivit déclenchèrent directement la récession économique de 1991. Entre-temps, les capitaux s'étaient envolés vers le Japon, attirés par le cours élevé du yen et la spéculation dans l'immobilier. Entre 1985 et 1990, la valeur des actions à la bourse de Tokyo a été multipliée par 3. Cette bulle financière a fini par crever. Le système bancaire du Japon s'est retrouvé en faillite et n'a dû sa survie qu'à l'intervention massive de l'État japonais. Une longue période de récession s'est alors ouverte, que la population continue de payer. Durant toutes ces années, la spéculation sur les monnaies faisait rage. Leur flottement général permettait aux financiers de s'enrichir en pariant sur les variations quotidiennes des cours. Ces variations représentent les fluctuations entre l'offre et la demande de telle ou telle monnaie. Elles sont normalement le reflet de la circulation des marchandises entre les pays. Mais l'afflux de capitaux vers les bourses de devises amplifia considérablement les variations, aggravant l'instabilité financière de toute la planète. En septembre 1992, le milliardaire George Soros vendit à découvert, c'est-à-dire sans les posséder, 10 milliards de livres sterling, pariant à la baisse sur cette devise. La Banque d'Angleterre déboursa toutes ses réserves pour défendre sa monnaie, qu'elle dut finalement dévaluer. Quant à Soros, il racheta 6 milliards de livres à bas prix, empochant plus d'un milliard de bénéfices. En moins de 5 ans, le déplacement des capitaux sur les places financières de la planète provoqua des crises financières ou boursières au Mexique en 1994, dans le sud-est asiatique en 1997, provoquant un effondrement complet des économies thaïlandaises et indonésiennes, en Russie en 1998, suivi de la faillite de l'Argentine la même année. Lors de cette crise, un gros fonds spéculatif américain, LTCM, se retrouva incapable d'honorer ses engagements. La Fed trouva en urgence des banques pour le sauver. Sa faillite aurait entraîné la panique dans tout le système financier et peut-être son effondrement. Le refrain allait resservir. La crainte des marchés, c'est-à-dire celle des financiers, n'empêcha pas les affaires de repartir. La bulle gonfla alors dans le secteur de l'industrie informatique, la nouvelle économie des années 1990. Ce secteur connaissait une véritable croissance économique, basée sur la production bien réelle de téléphones portables, d'ordinateurs ou d'écrans plats. Cette production entraînait à son tour des investissements chez les fabricants de composantes, en particulier leurs sous-traitants en Chine. Mais ce boom fut amplifié par la spéculation. Les actions d'une société comme Amazon.com, ne possédant que quelques gros ordinateurs et ne faisant même pas encore de profit, valaient en bourse bien plus que celles d'un géant de l'automobile comme General Motors. Cela ne pouvait pas durer et finit par s'effondrer à la fin 2000, provoquant une nouvelle crise. Cette crise, comme les précédentes, n'eut pas que des conséquences boursières. Des sociétés de l'industrie des télécommunications firent faillite, en particulier les fameuses start-up qui avaient fleuri dans les années précédentes. D'autres, bien plus grosses, Alcatel, Vodafone ou France Télécom, licencièrent. L'éclatement de la bulle de la nouvelle technologie coïncida aux États-Unis avec 2 autres événements qui menaçaient de provoquer un krach de toute la finance. Ce fut le scandale de l'affaire Enron, qui révélait comment les dirigeants de cette société texane de courtage en énergie avaient trafiqué leurs comptes pour doper le cours de leurs actions. Ce furent surtout les attentats du 11 septembre 2001 qui secouèrent l'économie américaine au moment où elle entrait en récession. Pour éviter un effondrement, le directeur de la Fed, Alan Greenspan, abaissa ses taux d'intérêt au maximum. Cela dopa l'économie en facilitant une nouvelle fois le crédit. À cause de ce choix, Greenspan est aujourd'hui rendu responsable de la crise. C'est dur d'être le banquier central de la bourgeoisie. S'il avait fait le contraire, il serait sans doute voué aux gémonies pour avoir provoqué une crise grave dès 2001. Au prix d'un endettement encore jamais atteint, le marché solvable allait être une nouvelle fois élargi. L'État allait augmenter massivement sa dette et émettre de nouveaux bons du Trésor. Cela lui permit en particulier de passer des commandes au complexe militaro-industriel. Les attentats du 11 septembre servirent de formidables prétextes pour déclencher les guerres en Afghanistan et en Irak. Avec le terrorisme international, l'impérialisme américain s'est inventé un nouvel ennemi pour remplacer le communisme et la guerre froide, et surtout pour justifier des budgets militaires en croissance exponentielle. Les commandes de l'armée sont en effet devenues au fil du temps une béquille vitale de l'industrie américaine, une extension permanente du marché solvable. Le crédit facile relança la consommation des ménages et tira la production de toute la planète. La dette des ménages américains explosa. De 4 000 milliards de dollars en 1990, elle passa à 7 000 en 2000 pour atteindre 13 900 en 2008. Malgré la diminution constante de leurs revenus, les classes populaires se virent proposer toujours plus de crédits, directement ou sous forme de nouvelles cartes de crédit avec des taux de 15 ou 20%. Des officines allaient proposer des prêts immobiliers à des familles de plus en plus modestes, à des taux variables, en hypothéquant la maison. C'étaient les fameux crédits subprimes. Cela inaugurait un nouveau boom dans l'immobilier. Tant que les prix montaient, les ménages pouvaient toujours revendre la maison pour rembourser le prêt. Les officines revendirent ces crédits à des banques qui les inclurent dans des titres appelés produits dérivés. La titrisation et les produits dérivés sont les derniers nés de l'imagination délirante des financiers. Comme c'était trop simple, les génies de la finance ont conçu des dérivés basés sur une combinaison complexe de plusieurs titres. Certains sont si complexes qu'il faut un livret de plusieurs centaines de pages pour expliquer leur mécanisme. Autant dire que les acheteurs ne savent pas ce qu'ils contiennent. Même s'il vit sa propre vie et circule sur tous les marchés financiers de la planète, la valeur d'un produit dérivé reste basée sur les crédits ou autres titres qui lui servent de support. Si les titres ne valent plus rien, le produit dérivé s'effondre à son tour. Les économistes appellent toutes ces manipulations l'industrie bancaire. Cette expression dit clairement que pour les capitalistes, le but de l'industrie n'est pas de produire des biens utiles, mais de rapporter des profits. Avant le krach de septembre, le marché mondial des produits dérivés atteignait les 400 000 milliards de dollars. Une somme à comparer avec les 60 000 milliards de dollars de capitalisation boursière sur la planète avant le krach. Cette somme est censée représenter la valeur totale de toutes les entreprises cotées en bourse. Autant dire que les produits dérivés d'une valeur 15 fois plus grande ne représentaient que du vent. Comme en 1929, c'était la chronique d'une catastrophe annoncée. Tous les spéculateurs savaient que leur système financier était instable. George Soros, un expert en spéculation, résume lui-même dans son dernier livre toutes les raisons qui ont fait gonfler depuis 30 ans ce qu'il appelle lui-même la superbulle. Soros ajoute que chaque krach a servi de test concluant aux spéculateurs. Lors de chaque crise, ils ont pu se convaincre que les autorités interviendraient toujours pour empêcher les faillites en injectant des capitaux frais pour huiler le système. Les autorités ont ainsi favorisé la dérégulation de tous les marchés financiers. Les gouvernements ont progressivement supprimé les barrières juridiques qui compartimentaient les différents secteurs de la finance, banques de dépôt, banques d'investissement, compagnies d'assurance, sociétés d'investissement. Ils ont supprimé les contrôles d'échange entre pays et leur droit de regard sur les transactions financières. Ils ont assoupli les frontières entre le marché des actions, celui des obligations, des devises, ou encore celui des commodités, c'est-à-dire des matières premières. En passant par le bon courtier, une compagnie d'assurance peut acheter des bons représentant des tonnes de blé ou de cuivre. Un constructeur automobile peut acheter des titres adossés sur les crédits immobiliers. Les gouvernements n'ont finalement fait qu'aider la bourgeoisie à trouver des débouchés aux capitaux qu'elle ne voulait pas investir dans la production. Car tous ces capitaux engagés dans la sphère financière ne sont pas des coupons de monopoly. Ils sont issus de la production des richesses. Il n'y a pas d'un côté le capitalisme moral, les industriels, qui seraient utiles, et de l'autre des financiers immoraux, des fonds spéculatifs qui étrangleraient la production. Les deux sont intimement imbriqués et se nourrissent l'un l'autre. Le cas du fonds Wendel Investissement, dirigé par Ernest-Antoine Sellière, ex-patron du MEDEF, en est une illustration. Les Wendel bâtirent leur immense fortune dans la sidérurgie. Ils surent habilement profité de la crise de ce secteur dans les années 70. Avec l'argent du rachat d'Usinor Saint-Cyr par des banques publiques, puis sa nationalisation complète en 1981, ils constituèrent une holding financière. Wendel Investissement possède aujourd'hui des actions dans des dizaines de sociétés, dont Valeo et Saint-Gobain, ou des banques comme UBS. Malgré son nom, cette société n'investit pas des capitaux frais dans des entreprises qu'elle contrôle. Elle se contente d'acheter des parts de capital et de prélever du profit dans les entreprises les plus rentables. Dans les années 90, Wendel s'était associé à un fonds spéculatif dont la spécialité était le rachat par emprunt, remboursé par la suite par l'entreprise achetée elle-même. Par ces méthodes, Wendel a pris le contrôle de l'électricien Legrand ou de l'équipementier Valeo, supprimant des milliers d'emplois et fermant des usines en Normandie. Wendel Finance n'est pas un fonds spéculatif anonyme. C'est une société constituée par les héritiers d'une famille de la grande bourgeoisie industrielle française, dirigée par celui qui fut le porte-parole des patrons de ce pays pendant plus de 5 ans. Voilà un bel exemple de capitalisme industriel entrepreneurial. Et on va faire la pause maintenant.
faire une pause de un quart d'heure. Et donc, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons, si vous quittez votre siège, de bien vouloir prendre vos affaires avec vous. Nous reprenons à 10h05. 10h05.